Sud Radio, parlons immo, Sylvain Lévy-Valency.
Votre rendez-vous 100% immobilier jusqu'à 10h sur Sud Radio comme tous les samedis. Bonjour Sylvain Lévy-Valency.
Bonjour Jean-Marie et bonjour à tous.
Fondateur de Radio Immo. On parle de quoi aujourd'hui ?
Mais écoutez, on va parler un peu politique du logement si vous voulez bien Jean-Marie. C'est un député que nous recevons et pas n'importe lequel puisqu'il est également président du Conseil National de l'Habitat, très engagé sur la politique du logement. Logement qui pose réellement question après la livraison du rapport de la Fondation Abbé Pierre. Et c'est en l'occurrence Lionel Causse qu'on recevra tout à l'heure.
Absolument. Alors au programme aussi, vos questions, celles que vous nous posez au 0826 300 300 comme toutes les semaines.
Absolument, au 0826 300 300. Et, bon, n'hésitez pas à nous appeler pour vous faire part de vos problèmes et c'est l'habitude de la rédaction. Cette semaine, Bérénice s'est intéressée au bail du code civil, utilisé de plus en plus par les propriétaires dans l'optique d'une location de leur logement plus cher pendant les Jeux Olympiques. Et oui, on verra avec notre expert si c'est une bonne année, une bonne idée ou pas. Et enfin, comme d'habitude, Jean-Marie, Grégoire fera le tour de France des biens coup de cœur de la rédaction ainsi que le bien viager de notre partenaire Viagimo. Nous verrons ça tout à l'heure. Direction Saint-Nazaire, Dax et Nassigny.
Absolument, on va visiter des maisons pour vous. On va vous donner le prix, le plan de financement. Et si ça vous plaît, bah vous achetez tout simplement. Allez, tout de suite, on commence avec Bérénice de Villefleuriot. Bonjour à vous Bérénice.
Bonjour.
Les infos Bérénice. De la semaine à retenir, c'est avec Sylvain et vous.
Absolument, et on va commencer Jean-Marie avec une bonne nouvelle.
Oui, je vous l'avais dit la semaine dernière, les taux d'intérêt des crédits immobiliers ont légèrement baissé ce mois-ci. La concurrence entre les banques est de retour, donc n'hésitez pas à faire le tour des banques pour comparer ce qu'elles vous proposent en termes de taux pour votre crédit immobilier. Et c'est officiel, il y a de plus en plus de projets immobiliers financés par les banques en ce début d'année. La production de crédit a augmenté de 8,5% en janvier par rapport à décembre dernier.
Alors on continue, les activités immobilières à part l'étranger, on traverse l'Atlantique cette fois-ci.
Oui, direction le Canada. Alors si ce pays vous a toujours fasciné et que vous envisagez un jour d'y réaliser un investissement immobilier, eh bien sachez que dimanche dernier, le gouvernement canadien a annoncé la prolongation jusqu'au 1er janvier 2027 de l'interdiction pour les étrangers d'acheter un logement. L'objectif étant de faire face à la pénurie de maisons et d'appartements qui touche également le pays. Donc il existe évidemment des exceptions à cette loi. Elle ne s'applique qu'aux résidences en ville et pas aux biens touristiques. Les réfugiés ou les résidents permanents ainsi que certains étudiants internationaux et travailleurs temporaires ne seront pas concernés. Le gouvernement libéral de Justin Trudeau en fait reproche aux investisseurs étrangers d'avoir fait augmenter les prix des biens immobiliers et ce pendant des années, notamment dans les grands centres urbains et donc de rendre le logement inaccessible pour certaines familles canadiennes. Alors cependant, tous les experts ne sont pas du même avis. Un grand nombre estime que cette interdiction ne suffira pas à rendre les logements plus abordables pour les Canadiens, les investisseurs étrangers ne représentant que 2 à 7% des propriétaires de logements au Canada en 2021, selon les chiffres de l'Agence fédérale de statistiques.
Alors justement, on voit bien que la crise du logement touche tous les pays,
et oui.
Et aussi outre-Atlantique, c'est pas forcément une bonne nouvelle. On va terminer ces infos, Bérénice, avec une arnaque qui a fait perdre 26 000 euros à un couple.
Et oui, alors mercredi, c'est là... Saint-Valentin. On voit que vous ne vous sentez pas concerné.
Jean-Marie est très
bon. Pour l'instant. Mais écoutez,
il va falloir la fêter, Jean-Marie.
Bon, je vois que vous aviez besoin de faire passer le rappel à quelqu'un en tout cas qui vous écoute en ce moment.
C'est ça. Voilà.
C'est un appel à candidature.
Exactement.
0826-300-300.
Bon, je suis mariée, je le rappelle. Bon, si pour l'occasion, vous envisagez de proposer à votre chérie d'emménager ensemble et d'aller même plus loin, d'acheter ensemble, attention aux arnaques. Certains faux conseillers bancaires sévissent. C'est ce qui est arrivé il y a un an à un couple de Tourcoing, Victoria et Romain, 27 et 29 ans. Ils avaient décidé d'acheter ensemble. Le couple, travaillant beaucoup, a donc demandé de l'aide à la maman de Victoria. Celle-ci a alors rempli plusieurs formulaires de simulation de prêt sur Internet. Et là, elle est rappelée par un certain Antoine, un soi-disant conseiller bancaire Hello Bank, qui lui propose un prêt immobilier à 2,2%. À l'époque, les taux étaient déjà entre 3 et 4%.
Ah oui, d'accord. Donc là, elle se dit génial.
Voilà.
Un taux intéressant. Ma fille et mon gendre vont devenir enfin propriétaires. C'est bien ça ?
C'est ça. Bon, ils ont quand même été méfiants, parce que le taux, vous l'avez dit, était très intéressant. Donc, ils ont appelé leur banque, ils ont appelé un courtier aussi, et tous leur ont dit que les conditions du prêt proposé n'étaient pas anormales. Le courtier leur a même dit « Dépêchez-vous, vous ne trouverez pas un meilleur taux ailleurs ». Ensuite, il y a eu de nombreux rendez-vous avec le fameux Antoine, le faux conseiller bancaire, qui semblait très professionnel. Voilà, il expliquait très bien les choses très techniques. Donc, il a gagné la confiance du couple. Et puis, là, Victoria et Romain trouvent trouvent une maison, leur maison idéale, et c'est là que les choses se corsent. Le faux conseiller bancaire demande au couple de verser leur apport personnel de 26 000 euros sur un compte de nantissement, soi-disant pour garantir le prêt, ce qui ne se fait jamais. L'apport personnel est soit versé lors de la signature du compromis de vente chez le notaire, soit lors de la signature de l'acte de vente authentique et définitif, toujours chez le notaire.
Alors, c'est très important de le rappeler, Bérénice, il ne faut pas verser votre apport à un conseiller.
Et non. Hein
et qu'est-ce qui s'est passé ensuite pour Victor et Romain?
Ben,
Victor,
ils ont versé l'argent hein, sur ce fameux compte bancaire. Ensuite, ils ont attendu les documents officiels longtemps, qui ne sont jamais arrivés. Ils ont appelé l'Obank et là, en fait, ils ont compris que l'escroc avait usurpé l'identité d'un vrai conseiller bancaire hein, qui existe. Donc, ils ont porté plainte, mais ils ont peu d'espoir de retrouver leur argent.
Oui, par contre, l'IBAN dont il s'est servi est un réel IBAN. Ouais. Il faut faire très attention aux néobanques. Vous savez, les banques sur Internet qui délivrent, pour tous ceux qui n'ont pas les agréments AMF, des IBAN réels. Et ils s'en servent pour faire des arnaques. Il y a eu pas mal de dossiers ces derniers temps à la télévision.
Et Bérénice. Antoine s'apprête à passer un dîner de Saint-Valentin quelque part aux Seychelles, en plus avec l'argent de ce pauvre couple. C'est assez triste. Hein.
Ouais, c'est triste, oui. C'est vrai, absolument. Ouais. Ça pourrait prêter à rire, mais ça ne l'est pas du tout pour eux. Bérénice, quel conseil on peut donner à ceux qui nous écoutent, très important, pour éviter d'être victime de ce genre d'arnaque?
Et attention, parce qu'il y en a de plus en plus. Donc la première chose, je vous l'ai dit tout à l'heure, il ne faut rien verser avant la signature de l'acte authentique ou parfois lors de la signature du compromis de vente. Mais cela, ça se passe toujours chez le notaire. La somme versée doit toujours être virée au notaire sur le compte de la Caisse des dépôts et non à la banque. Et ensuite, des réflexes qu'il faut toujours avoir, se méfier des taux trop bas pour être vrai. Il faut toujours vérifier les mots employés aussi dans les mails que vous recevez, la terminologie, s'il y a des fautes d'orthographe. Et enfin, les banques le rappellent en ce moment, un conseiller bancaire ne vous sollicitera jamais par SMS, par téléphone ou par email pour vous contraindre à valider ou annuler une opération de paiement. Ça se fait jamais par mail, par SMS ou par téléphone. Voilà, donc faites très attention, il y a beaucoup d'arnaques en ce moment.
Voilà, c'est dit.
Eh bien, en tout cas, on notera le conseil. Merci à vous, Bérénice. On vous retrouve dans quelques minutes pour les appels des auditeurs. Mais avant ça, Sylvain, place à votre invité. On va parler de quoi dans un instant?
On va parler de la politique du logement, sérieusement, avec l'état de précarité du logement, vous le savez, dans le pays, avec Lionel Causse, député des Landes, et en outre, président du Conseil national de l'habitat.
À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, parlons IMO. Sylvain Lévy-Valency.
Votre rendez-vous immobilier jusqu'à 10h sur Sud Radio avec Sylvain Lévy-Valency et son invité.
Merci Jean-Marie. Bonjour Lionel Causse.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau, sachant que, on le sait à Radio Immo et maintenant à Sud Radio, que votre engagement pour le logement décent et l'habitat des Français, c'est une véritable cause. Parmi toutes vos fonctions, vous êtes député de la 2e circonscription des Landes et depuis fin 2022, vous êtes président du Conseil national de l'habitat. Une instance de consultation et de dialogue qui permet d'informer et d'améliorer la politique du logement. On aimerait simplement que le CNH soit peut-être un peu plus coercitif avec un exécutif qui a l'air à la fois sourd d'oreille et aveugle. Bon, vous savez, ma première question est simple. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos éditeurs, un, quel est le CNH et comment vous travaillez en ces temps de crise massive du logement? Et Dieu sait que c'est un vrai sujet.
Et on a beaucoup de travail. Donc, en effet, le Conseil national de l'habitat, que j'ai le plaisir et l'honneur de présider donc depuis fin de 2022, est une organisation qui regroupe un peu plus de 80 professionnels du logement, donc des personnes qualifiées, mais aussi des représentants d'organismes, de structures ou de syndicats. Donc on a des représentants de la Fondation Abbé Pierre, des syndicats divers et variés, de la FFB, du MEDEF,
FNAIM,
voilà. Donc SMPI, tout le monde est représenté, UNIS. Donc il y a une richesse, une diversité importante. Et donc c'est vrai que c'est cet organisme qui donne des avis déjà sur les textes du gouvernement qui concernent le logement. Alors ce ne sont que des avis consultatifs, mais chaque fois qu'un texte, un décret sort du gouvernement, nous l'examinons, nous le mettons au vote. C'est arrivé une fois d'ailleurs, depuis que je le préside, je crois que c'est assez rare, mais c'était la première fois qu'un texte n'a pas été obtenu la majorité. C'était sur justement la RLS, la reconduction de la RLS l'automne dernier. Donc pour vous dire qu'on a de vrais débats, moi c'est ce que je souhaite, qu'on puisse s'exprimer et je dirais prendre des décisions claires.
La RLS qui a fait couler beaucoup d'encre, on va rappeler simplement à nos auditeurs, c'est la réduction du loyer de solidarité
pour les bailleurs sociaux et donc qui représente 1,3 milliard d'euros euros à partir de depuis 2023, voilà. Et donc c'est effectivement un montant important sur le fonctionnement des bailleurs sociaux.
Alors Lionel Causse, sous votre respect, hein, vous savez, on se connaît un peu, mais je vais quand même rentrer, mettre les pieds dans le plat, si vous voulez bien. On se demande finalement à quoi sert le CNH. Quand on voit que finalement les dispositifs que vous avez promus sont non seulement pas entendus, mais on a presque l'impression d'un vent de mépris de l'exécutif. 4 gouvernements successifs, 5 ministres du logement, bis repetita bien évidemment, et vous avez remis la semaine dernière d'ailleurs les rapports 2023 du Conseil national de l'habitat, c'est une habitude, vous les avez remis aux ministres Béchu et Gabriel Attal la semaine dernière. Est-ce que vous espérez encore quelque chose ?
Bien entendu, parce que le CNH, j'ai commencé par dire qu'on émettait des avis sur les textes du gouvernement, mais on peut aussi se saisir de sujets. Alors, je ne peux pas vous dire ce qui se faisait avant 2022, enfin, je le sais, mais je ne suis pas là pour en parler. Vous demanderez au président précédent avant moi.
Voilà,
en tout cas, depuis fin 2022, moi, j'ai souhaité justement que le CNH se saisisse de sujets. C'est ce que nous avons fait courant toute l'année 2023 sur 5 rapports que nous avons dû la semaine dernière, en effet, à l'exécutif, au président de la République, sur
cinq
des thématiques
rapports,
importantes.
Causse.
5 rapports, mais tous différents. C'est pas les mêmes. C'est-à-dire, nous avons fait un rapport sur les zonages, nous avons fait un rapport, par exemple, sur le besoin en logement, sur la filière des DPE, sur le statut du bailleur privé. Voilà, donc ce sont des thématiques qui ont été choisies par les membres.
Vous avez fait 5 rapports, aucun de ces rapports, ils ont peut-être été lus, mais aucun de ces rapports, en sortant de la lecture de ces rapports, aucun élément a été mis en œuvre. Citez-moi, si vous voulez bien, un élément. Je vous ai déjà posé cette question.
Je les ai remis la semaine dernière. Attendez.
Vous êtes pressé.
Non, mais juste. On les a remis la semaine dernière.
Vous avez remis tous ces rapports. C'est
voilà.
Pas le. Je ne parle pas du dernier rapport. Je parle de tous les rapports que vous avez déposés.
Tous.
Avec le respect que je vous dois, constat sur la crise que vous partagez, Lionel Causse.
Oui,
et d'ailleurs, votre parole, et je le salue, est libre. Très libre dans
tout
le truc. Et peut-être l'avez-vous payé politiquement, on ne sait pas. Et rapports nombreux, 27 rapports ont été mis sur le logement. Le gouvernement a de multiples sources d'informations. Vous avez parlé du statut du bailleur privé, mais il n'y a pas que ça. Vous avez aussi évoqué la TVA, vous avez évoqué la construction, vous avez évoqué l'amélioration de l'habitat et la dignité dans l'habitat. Je vais vous poser la question politique, c'est obligé. Pourrait-il y voir un intérêt encore de poursuivre ?
Alors, déjà, ces rapports ont été rendus, comme je vous l'ai dit, il y a une semaine. Et moi, je pense qu'ils vont nous aider à construire justement les projets de loi qui vont arriver dans l'année à venir. Mais tout ne relève pas de la loi. Tout ne relève pas de la loi. Oui, nous avons des choses qui vont avancer. Je ne vous dis pas que ça sera à la hauteur de la situation actuelle, mais nous avons des choses qui, effectivement, pourront avancer, je pense, dans les semaines et dans les mois à venir. En tout cas, moi, je m'y engage et je ne lâcherai jamais pour qu'on puisse y arriver.
Prenons le sujet du bailleur privé, qui est un vrai sujet pour la relance de l'investissement. C'est une catastrophe, ce qui est en train de se produire en ce moment. C'est indigne d'un gouvernement de laisser un état de précarité de logement qui touche aujourd'hui des millions de Français. Le rapport de la Fondation Abbé Pierre a été éloquent. Pourquoi le statut de bailleur privé, lorsque vous êtes sorti du CNR, vous aviez tous espéré qu'il se mette en place, et là, rien.
Blocage. Blocage de Bercy. Vous savez, c'est un statut qui coûte plusieurs milliards et aujourd'hui, au vu de la situation financière de l'État français, au vu de la dette, Bercy a préconisé que nous devions faire des économies sur la politique du logement, ce que je peux regretter en effet, parce qu'on regarde souvent les dépenses et pas suffisamment les recettes. Donc ce qui a été décidé dans le PLF pour 2024, malgré des amendements que nous avions déposés, parce que le statut du bailleur privé, il y avait déjà même pour l'année 2023 un amendement
Absolument.
De mon collègue Jean-Paul Mathy qui avait été validé, y compris en séance, qui a été retoqué. Nous avons voté pour cette année la suppression de la RLS, ça a été remis dans le 49.3. Donc c'est vrai qu'il y a entre la volonté des députés, ce qui peut être voté en commission ou en séance, et ce qui nous est resté dans le 49.3, des écarts importants, des écarts qui font qu'aujourd'hui, moi je le pense, la crise va s'aggraver parce que justement, on ne donne pas le signal sous prétexte qu'il faut faire des économies et qu'on ne regarde pas
justement,
les
recettes, Justement Lionel Causse, donc vous avez dit avec des mots très, très, très polis, j'allais dire très politiques, que finalement les décisions ne se prennent pas ni à l'Élysée forcément, mais à Bercy, et que l'arbitrage a été budgétaire au détriment du logement et de la dignité des Français.
C'est un arbitrage budgétaire qui, voilà, en détriment, effet, aujourd'hui, est au détriment, la seule politique que nous avons sur le logement. Okay. Je le regrette, c'est effectivement la seule politique.
Au détriment des Français.
Et je pense qu'il est important d'avoir une politique logement qui s'occupe de l'humain avant tout, c'est-à-dire qui tienne compte que dans un logement, nous avons des hommes et des femmes qui ont besoin de vivre correctement. Il y a des enjeux de santé, des enjeux d'éducation, et qu'il faut mettre de l'humain à l'intérieur du logement comme à l'extérieur, et non pas avoir qu'une politique basée sur les finances et sur
les chiffres. Lionel Causse, je ne peux, comme tous les Français qui nous écoutent, les auditeurs qui nous écoutent, que souscrire à ce que vous dites.
Et mais, on va se battre.
Mais au-delà de ce discours,
tout ça.
Il n'y a juste rien. C'est-à-dire que vous êtes aussi, alors pardonnez-moi, je vous le dis, vous êtes député de la majorité, vous faites partie de cette majorité. Moi, je vous pose la question, est-ce que le monde politique est déconnecté du monde des professionnels et de ceux qui ont les solutions? Prenons les trois premières solutions, je vous en prendre une. Hein, d'accord? On va prendre une. Recettes, dépenses, environ entre 39 et 42 milliards d'euros. Recettes
hors 12 milliards.
TVA, un peu plus de 92 milliards d'euros. Sauf que dans ces 92 milliards d'euros, ça ne rentre pas dans la même poche, ça ne rentre dans la poche de Bercy, ça rentre surtout dans la poche des collectivités locales, pauvres élus locaux, qui en prennent plein la gueule, justement. Quand vous prenez cet élément-là, qu'on chiffre même le chiffre, par exemple, de la fiscalité du bailleur privé, en fait, ça ne coûte pas cher du tout à l'État. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui relève du dogme. Ça ne vous fait pas hurler?
Ça me fait hurler parce qu'en fait, nous avons deux façons d'avoir, je dirais, une approche avec le logement aujourd'hui, qui se retrouvent dans tous les groupes politiques. Vous avez d'un côté celles et ceux qui considèrent que le logement, c'est comme, ça a été dit d'ailleurs par certains députés, c'est comme un smartphone, c'est un marché libre qui doit s'autoréguler et qu'il faut que l'État arrête de le, entre guillemets, subventionner à travers, ou bien des mesures fiscales, ou à travers des subventions. Et il y a ceux qui considèrent...
Donc vous n'y croyez pas, ça?
Non, pas du tout, parce que je considère, comme je vous l'ai dit...
Vous ne croyez pas à la perfusion fiscale, la mise sous respiration artificielle d'une industrie?
Moi, je pense qu'il faut une politique au logement, et que cette politique au logement nécessite une action forte, bien sûr, de l'État, mais aussi des collectivités territoriales. Et pour que cette action soit forte, il faut que nous ayons un cap. Et ce cap, il doit être, bien entendu, porté au plus haut niveau, en disant voilà ce que l'on veut comme logement, voilà les objectifs que l'on veut atteindre, et après on décline les politiques, mesure par mesure, que l'on veut mettre en place. Or aujourd'hui, ce cap n'existe pas, et ce que nous faisons, c'est réduire les aides, réduire la fiscalité favorable sur le logement, en se disant, eh bien, normalement, tout va rentrer dans l'ordre. Or, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que ceux qui sont propriétaires s'en sortent bien, surtout s'ils n'ont pas de crédit, 40% des Français. C'est ça qui est compliqué, en fait, dans la politique du logement.
Vous parlez des propriétaires occupants, là.
40%, voilà. Des Français.
Vous parlez des propriétaires occupants.
40% des Français, aujourd'hui, occupants, n'ont ni crédit, ni loyer. Donc, eux, effectivement, il n'y a pas d'impact de pouvoir d'achat avec leur logement sur leur revenu. Par contre, tous les autres, où ils ont un crédit, parce qu'il y a 57%, donc pour 17% qui ont un crédit, ou ils sont locataires. Et cela a un impact direct. Et on a tendance à les oublier, et on voit bien, toutes les données le démontrent, qu'aujourd'hui les locataires sont les Français qui s'appauvrissent le plus. Donc, avec une politique, je dirais, complètement libérale sur le logement, on fait que ceux qui ont la possibilité de s'en sortent encore mieux, puisqu'ils n'ont pas de difficultés, et que ceux qui sont en difficulté n'accèdent plus au crédit, n'accèdent plus au loyer et s'en sortent moins bien.
Lionel Causse, on va peut-être le dire autrement, finalement, les riches deviennent plus riches et les pauvres plus pauvres. C'est un peu plus provocateur, mais c'est exactement ce qui se passe.
Oui, parce que le logement, c'est entre 30 et 40% du pouvoir d'achat.
Ce sont les classes moyennes qui en prennent plein la gueule. C'est une relégation sociale, plus ceux qui n'arrivent pas à se loger. Quand on est étudiant, on est au bord de la rupture. Et je ne vous parle pas des jeunes actifs qui arrivent en métropole. Il y en a 17% qui ont renoncé à signer leur contrat de travail. Cette responsabilité est directement imputable au gouvernement. Soyons clairs. Dernière question, très rapidement. Vous avez déposé, avec d'autres collègues députés, une proposition de loi pour introduire les représentants de l'Assemblée nationale du Sénat et au sein du Haut Conseil de stabilité financière. Je trouve que c'est une super idée pour justement essayer de flexibiliser les octrois de crédit. On espère encore quelque chose.
Vous voyez qu'il y a des choses qui avancent. Oui, puisque alors, j'ai déposé avec de nombreux collègues, d'ailleurs de plusieurs partis politiques.
Ça va se faire.
Politique. J'ai une demande de rendez-vous demain avec le cabinet de Bruno Le Maire, qui est plutôt, ce que j'ai cru comprendre, favorable à cette PPL.
Donc, il était favorable aux bailleurs privés aussi. Hein.
J'espère que nous allons pouvoir y arriver. Là, il n'y a pas de coût pour l'État. Donc en fait, elle est toute simple, la PPL. Hein.
Ça ne coûte rien, c'est bon.
J'ai deux articles. Hein. Le premier, c'est effectivement, je veux qu'il y ait deux parlementaires, un député et un sénateur, dans la gouvernance du HSF, pour qu'il puisse y avoir la transparence. Parce que même nous, parlementaires, on ne sait pas ce qui se dit. On ne connaît que les décisions, on ne connaît pas les débats. Et le deuxième, c'est tenir compte du reste à vivre au niveau des crédits et puis faire confiance beaucoup plus au réseau bancaire, qui est aujourd'hui un réseau bancaire français qui est solide et qui sait évaluer le risque lorsqu'il accorde un crédit.
Merci Lionel Causse, député de la deuxième circonscription des Landes, président du Conseil national de l'Habitat. Merci d'avoir répondu sans détour à notre émission sur Parlons-nous. On était très heureux de vous recevoir, Jean-Marc.
Exactement. Allez, restez avec nous sur Sud Radio. On continue à parler logement dans un instant avec Sylvain Lévy-Valency et toute son équipe. Sylvain qui a mangé du lion ce matin. Alors n'hésitez pas, tiens, 0826 300 300. Venez prendre la parole vous aussi.
Sud Radio, Parlons Immo, Sylvain Lévy-Valency.
Jusqu'à 10h avec toute l'équipe de Parlons Immo et Sylvain Lévy-Valency.
Absolument, puisque l'autre versant de notre émission, c'est de répondre aux Français tous les samedis matins dans Ça vous concerne et ça vous concerne partout où vous êtes dans le territoire. Cette semaine, Bérénice, sur le répondeur de Sud Radio, on a eu un message.
Oui, tout à fait. Alors je rappelle que vous pouvez nous laisser vos messages à tout moment, hein, 0826 300 300, n'hésitez pas maintenant, pendant la semaine, on vous répond et on vous met en relation avec des experts. C'est Jean qui nous a écrit, qui nous a appelé. Il est propriétaire d'un appartement de 47 mètres carrés dans le 18e arrondissement de Paris et souhaite le remettre à la location alors que son locataire vient de quitter les lieux. Bon, jusque-là, rien d'anormal, mais Jean sait que les JO, les Jeux Olympiques arrivent et aimerait louer cet appartement un peu plus cher hein, pendant cette période. Ça peut se comprendre. Ils sont des milliers à vouloir le faire, des milliers de Parisiens à vouloir profiter de l'événement. Alors Jean nous a dit qu'il avait récemment entendu parler du bail code civil. Il se demandait si c'était une bonne idée pour de l'adopter pour son prochain contrat de location. Alors justement, pour parler de ce bail code civil, on va recevoir notre cher maître Romain Rossilandi, avocat en droit immobilier. Bonjour maître.
Bonjour.
On est ravis de vous recevoir, on adore vous recevoir sur notre antenne.
On ne s'en lasse pas.
Voilà.
Non mais il y a un avocat en droit immobilier français, c'est maître Romain Rossilandi.
Voilà. C'est vrai, c'est vrai.
Que de louanges.
Eh bien oui, ça fait plaisir hein, le samedi matin. Bon, alors maître, déjà pour nos auditeurs, qu'est-ce que le bail code civil ?
Alors, je suis content que vous m'interrogiez là-dessus parce que c'est très à la mode. En ce moment, moi, j'ai beaucoup de clients qui veulent faire absolument. Alors, moi, j'ai fait depuis longtemps du bail code civil parce que ça permet, en fait, d'échapper à l'encadrement des loyers. Mais je vais y revenir. Le bail code civil, c'est un bail de droit commun, en fait. C'est un bail qui est soumis aux dispositions du code civil, hein, les articles 1708 et suivants du code civil. Ça veut dire qu'on y met ce qu'on veut dans ce bail. Mais ce qui est très important, c'est que ce bail est réservé aux résidences secondaires. Donc ça ne doit jamais être la résidence principale du locataire. Ça, c'est très important. Sinon, on est soumis à la loi du 6 juillet 89, qui est d'ordre public, avec toutes les protections qui en découlent. Ça peut fonctionner aussi, c'est souvent le cas, ce qu'on appelle le bail société. Vous savez, un bail consigné avec une société pour les besoins de ses collaborateurs, de ses employés, le bail lié à l'exercice d'une fonction. Donc à la base, c'est ça, le bail code civil. Et quand on a mis en place l'encadrement des loyers à Paris, il y a beaucoup de gens qui se sont dit, ah ben après tout, on va échapper à la loi de 89, donc à l'encadrement, on va signer des beaux codes civils. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est comme il y a les JO qui arrivent, les gens se précipitent là-dessus en se disant, ben, ça va me permettre de récupérer la jouissance de mon bien avant les JO, puisque vous pouvez fixer une durée très courte, vous pouvez faire un bail code civil de 3 mois, 4 mois, 5 mois, et les gens espèrent pouvoir le relouer après, évidemment, sur Airbnb pendant les JO. Donc c'est pour ça que ça a du succès.
Et ça échappe à l'encadrement des loyers.
Oui, parce que vous n'êtes pas soumis à la loi de 89, vous êtes soumis aux dispositions du code civil. Mais c'est dangereux quand même, c'est pour ça que je pense qu'il faut faire attention, il faut que ce bail soit très bien rédigé. Moi, quand je le rédige, j'écris en noir, en gras, le locataire est parfaitement informé qu'il renonce à installer sa résidence principale, qu'il est au courant que la loi de 89 ne s'appliquera pas, qu'il n'y aura pas de congé. Donc on peut d'ailleurs prévoir, moi, c'est ce que je prévois dans ces baux-là, c'est aussi l'avantage, c'est très souple, c'est qu'on prévoit que le contrat n'est pas renouvelable par tacite reconduction et qu'il prendra fin de plein droit à une date donnée.
Et en général, c'est quoi les dates, justement ?
On peut faire ce qu'on veut. Alors, ce que je conseille aussi, ça peut aller...
Non, mais quand vous dites ce qu'on veut, 8 jours, 10 jours, 15 jours,
oui,
3 mois ?
Bien sûr, ça peut être 3 mois, ça peut être 5 mois, ça peut être plusieurs années. Alors, moi, je conseille de jamais dépasser 8 mois. Pourquoi ? Parce que la résidence principale, vous le savez, c'est celle qu'on occupe au moins 8 mois par an.
Ah oui.
Et si vous faites un bail civil qui dure plus de 8 mois, vous avez un fort risque en cas de contentieux, évidemment, si ça va devant un tribunal.
De requalification ?
Exactement. Et là, c'est la catastrophe parce que du coup, encadrement des loyers, enfin, vous voyez, oui, les sanctions, dommages à intérêt, etc., etc. Donc, il faut faire très, très, très attention à ça. Le bail code civil, oui. Rédigé par un professionnel, c'est mieux. Et si possible, moins de 8 mois pour éviter l'aléa important de la requalification en bail d'habitation.
Et la question du congé, quand vous dites, on est lundi, je dis à mon locataire, demain matin, vous quittez les lieux.
Oui, alors ça dépend comment est rédigé le bail, encore une fois. Moi, les miens, ceux que je rédige pour mes clients, je ne prévois pas de congé, c'est-à-dire que je prévois dans une disposition spécifique que le contrat est non renouvelable par tacite reconduction, parce que le principe du code civil, c'est la reconduction tacite. Donc pour échapper à ça, on dit le contraire dans le bail. Il prendra fin de plein droit, j'en sais rien, moi, le 20 mai 2024, sans qu'il soit nécessaire de donner congé. Et donc, en théorie...
Mais s'il ne part pas, le locataire...
Ah bah voilà, évidemment, c'était la question qu'il fallait me poser, bravo. s'il ne part pas, bah, c'est exactement la même galère que pour un bail traditionnel. Pour le propriétaire, il faudra qu'il fasse une procédure d'expulsion qui durera 18 mois.
C'est du squat, donc, en fait, c'est une forme de squat, non?
Non, le squat, c'est rentrer par effraction.
Ouais, oui.
Maître Rossilandi, on l'avait déjà expliqué.
Bravo, Bérénice.
Je suis ce que vous dites, maître.
C'est gentil, mais c'est de l'occupation sans droit ni titre, parce qu'effectivement, il va se maintenir au-delà de son bail. Ouais. Mais pour le propriétaire qui sera victime de ça, il sera quand même obligé de faire la même procédure qui va durer aussi longtemps. Donc, ce n'est pas forcément une bonne idée, le bail civil. Il faut vraiment faire attention. Et savoir à qui on va le louer.
Et ça, donc, vous avez dit que vous le voyez fleurir de plus en plus. Alors, à Paris, j'imagine, à l'approche des Jeux Olympiques, est-ce que dans d'autres villes sont concernées, d'autres villes qui sont concernées aussi par l'encadrement des loyers?
Ouais, alors, dans toute l'île de France, moi, je regardais, allez voir les annonces sur Sologer, c'est assez impressionnant. Là, il y en a, j'en ai relevé quasiment 1000 annonces aujourd'hui où c'est écrit by code civil. Vous voyez, donc c'est, y a un phénomène de mode. Avant, moi, je faisais moi dans mon coin. Avec mes clients, mais je pensais pas que ça pouvait devenir. C'est devenu très très à la mode.
Et ça doit être précisé sur l'annonce, hein, c'est ça?
Oui, parce qu'effectivement, il devrait plutôt préciser sur l'annonce bail résidence secondaire. C'est ça qu'il faut préciser, à mon avis. Ou bail société. Parce que le vrai risque, c'est ça. C'est que si vous signez votre bail avec un locataire qui va dire oui, moi c'est ma résidence secondaire, mais en fait il y installe sa résidence principale et qui finalement se maintient, bah, vous serez requalifié. Ça, il n'y a pas l'ombre d'un doute là-dessus. Pour répondre enfin complètement à votre question, votre auditeur, il veut faire après du Airbnb, après son bail civil, j'ai bien compris.
Alors, s'il ne précise pas, mais oui.
Il n'aura pas le droit, il devra faire un changement d'usage.
Allez-y, ah oui, d'accord.
Bien sûr, puisque ça reste de l'habitation, et à Paris, si vous voulez, c'est votre résidence secondaire, par définition, puisqu'il veut y mettre un locataire. Mm-hmm. Donc, il sera obligé de faire une procédure de changement d'usage, c'est-à-dire racheter des droits de commercialité. Alors, personne ne le fait, hein, entre nous.
Est-ce qu'il y a des contrôles?
Oui, mais justement, si personne ne le fait.
En ce moment, il y en a de moins en moins, curieusement, parce que les JO arrivent. Oui. Il y en a eu beaucoup il y a deux ans. Mais il y a effectivement, la mairie, l'amende encourue pour le non-respect du changement d'usage, c'est 50 000 euros. L'amende encourue. Mais on n'est jamais condamné à payer 50 000 dans la pratique.
Vous voulez que je vous dise, maître Rossilandi, la France s'en remettra.
Oui, après je vais vous dire une chose aussi. C'est tout à fait normal qu'on rappelle aussi les risques pour les propriétaires. On peut aussi appeler les propriétaires parisiens à respecter un tant soit peu leurs locataires qui ne méritent pas tous d'être virés comme des malpropres parce que c'est les JO et qu'on peut trouver un Chinois ou un Russe qui perdit pas plus cher.
Absolument. Donc, absolument. Et d'ailleurs, si vous me permettez, Jean-Marie, moi j'abonderai complètement parce que les dindons de la farce, finalement, ce sont les classes moyennes françaises dans les villes qui, eux, n'arrivent pas à se loger. C'est un scandale. Et d'ailleurs, c'est eux qui paieront le prix des JO, malheureusement.
Et les étudiants aussi qui ont été virés de leur logement par le CROUS. Absolument.
Puis je rappelle pour les JO. Hein. Je rappelle simplement un chiffre, hein, Jean-Marie. 49% d'annonces en moins sur deux ans.
C'est ça,
à louer. Hein.
En tout cas, merci beaucoup, maître Romain Rossilandi. Je rappelle que vous êtes avocat en droit immobilier.
Et tout de suite, je vous propose qu'on commence notre Tour de France des biens à découvrir avec Grégoire Daricot qui nous rejoint. Bonjour à vous, Grégoire.
Bonjour, Jean-Marie.
On commence toujours par un bien en viager, Sylvain.
Absolument, un bien en viager. Et on va là. on va à Saint-Nazaire. Des chantiers de Saint-Nazaire.
Oui, tout à fait. Alors, Sylvain a lu ma petite blague parce que je vous emmène dans l'ouest de la France à LA, Loire-Atlantique. C'est une blague de l'humoriste Ahmed Silla pour ceux qui l'ont.
Très, très bon sketch.
C'est très beau, Saint-Nazaire. Ne m'appelez plus jamais France. Allez, voilà, il commence bien.
des chantiers de l'Atlantique. Effectivement, merci Jean-Marie. Donc Saint-Nazaire, notre bien est un très bel appartement de 3 pièces et 86,97 mètres carrés. Un 3 pièces traversant, très lumineux. Il est idéalement situé à 150 mètres de la mer, 150 mètres des commerces et 250 mètres du bus. Très important. Ouais. Notre appartement se situe au deuxième étage, avec ascenseur, Jean-Marie. Il comprend un séjour très lumineux, une cuisine équipée, deux chambres, une buanderie et une salle de bain. Et vous trouverez également un premier balcon tout le long du séjour, avec vue sur la mer d'un côté, vue sur verdure, et puis un second balcon pour l'une des chambres. Enfin, notre appartement possède une cave et un garage fermé.
Alors c'est un bien proposé par notre partenaire Viager Immo. Justement, absolument. Il y a des conditions pour ce viager.
Absolument, il y a des conditions particulières. Pour savoir qu'un viager, c'est pas uniquement dans le film de Pierre Tchernia d'ailleurs, c'est autre chose. Le bouquet est de combien?
Vous avez raison, comme d'habitude Sylvain, notre appartement ici, dont la valeur vénale est de 372 000 euros, est proposé en viager occupé par droit d'usage et d'habitation au profit d'une femme de 71 ans qui reste donc dans les lieux si vous voulez lui acheter son bien. Si vous êtes intéressé par cet investissement, vous aurez à débourser un bouquet de 99 700 euros et une rente viagère mensuelle de 494 euros. Là aussi, encore une fois, une vraie belle opportunité. Je vous conseille de foncer, contacter sans plus attendre l'agence Viagimo de La Baule ou de vous rendre sur le site internet de notre partenaire pour plus d'infos et photos, www.viagimo.fr.
Et puis en plus, c'est une bonne astuce pour les retraités qui leur permet d'arrondir leur fin de mois. Donc c'est pour ça que c'est un système qui est très important. On continue le Tour de France tout de suite.
Sud Radio, parlons IMO. Sylvain Lévy-Valency.
Avec la suite des biens coup de cœur, Sylvain.
Absolument, la rédaction fait le tour de France de l'immobilier chaque semaine. Grégoire, où vous nous emmenez cette année?
Eh bien, Sylvain, on va commencer par un bien situé dans une commune du plus beau département de France, en toute objectivité, une ville de 21 000 habitants environ, dans laquelle est né un certain Raphaël Ibanez, ancien capitaine emblématique du 15 de France. Et je parle bien évidemment de Dax dans les Landes. Monsieur le député aura reconnu.
Alors moi, je rappelle que c'est pour le député Lionel Causse qui est avec nous. Merci Lionel de rester avec nous. Mais c'est aussi parce que vous-même, je pense que vous aimez beaucoup les Landes.
Oui, tout à fait. J'y ai des attaches familiales. Et là, j'ai trouvé une maison très sympa, Sylvain. Une maison de 6 pièces de 142 mètres carrés, une maison d'architecte construite en 1978 et rénovée récemment. Notre maison, elle comprend une entrée, un vaste séjour avec parquet, une véranda, une cuisine équipée de 15 mètres carrés qui donne sur une terrasse. Elle a aussi 5 chambres, un coin bureau, 2 salles de bain, un cellier et un abri voiture. Alors cette maison, elle est bâtie sur un terrain de 835 mètres carrés. Et enfin, le diagnostic de performance énergétique, le fameux DPE dont on parle souvent, ici il est de D. L'ensemble, donc toute la maison, elle est proposée au tarif de 370 000 euros. Vous pouvez voir les photos et infos sur le site de squarehabitat.fr.
On finance toujours pareil, avec 20% d'apport.
À peu près 20%, Sylvain, effectivement. Donc 74 000 euros ici. Un emprunt sur 25 ans à 4,5%, pardon, vous pouvez estimer des mensualités de remboursement à 1 645 euros.
Et on trouve bien sûr ce bien sur le site de Se Loger. Sur le site de Square Habitat, pardonnez-moi. Un troisième bien rapidement, direction le centre de la France.
Oui, le centre géographique de la France. Un centre déterminé par l'Institut National de l'Information Géographique.
C'est dans l'Allier, non?
Comment?
C'est dans l'Allier.
C'est à Nassigny, exactement. Bravo Jean-Marie.
Docteur en géographie.
Donc une commune de 193 habitants. Il n'y a pas grand monde au centre. C'est une maison que je vous propose encore. Une maison de 195 mètres carrés sur un terrain de 5860 mètres carrés. Un pavillon des années 80 rénové et modernisé. Elle comprend au rez-de-chaussée un beau séjour lumineux, une cuisine ouverte et équipée et aménagée, une belle véranda de 27 mètres carrés, deux chambres et une salle de bain. À l'étage, un palier, deux chambres, un dressing et une autre salle de bain. Enfin, en sous-sol, un garage, une buanderie, une cave, un atelier et une pièce aménagée.
Et en un mot, le prix et le plan de financement?
Alors on est à 244 000 euros sur le prix, 20% d'apport soit 48 800 euros, un emprunt à 25 ans à 4,89% et vous avez des mensualités à 1 236 euros.
Et en attendant que le HCSF change son braquet, pour l'instant on peut emprunter encore sur 25 ans.
Bon, vous achetez ou pas Sylvain?
J'achète sans hésiter.
Je vous vois bien dans le centre de la France, je ne sais pas pourquoi.
Et vous nous invitez.
Après avoir été le centre radiophonique, ce sera le centre géographique. Sylvain, merci beaucoup à toute l'équipe. Sylvain Lévy-Valency, cette émission sera rediffusée mardi prochain à midi sur Radio Immo.
Absolument, sur Radio Immo et sur toutes les plateformes d'écoute.
Et puis on rappelle que toute la semaine sur Sud Radio, vous pouvez laisser vos messages au 0826 300 300. Un problème de logement, une question à poser, eh bien vous laissez votre message, on l'écoute, on vous rappelle et on vous met en contact avec nos spécialistes. À samedi prochain les amis.
À samedi.
Merci Jean-Marie.
Sud Radio, parlons Immo. Sylvain Lévy-Valency.